Le castor est de retour dans notre région. De quoi ce retour est-il le signe, Isabelle Duché ?
Des traces de la présence du castor ont été observées au sud de Toulouse, déjà présent dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. Ce mammifère est maintenant présent dans la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Son conservateur est notre invité ce matin. Bonjour Mathieu Hort.
Bonjour.
À vos côtés, Manu Jacot, chargé d'études sur les mammifères pour l'association Nature en Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous deux d'être présents aujourd'hui, d'autant plus que vous avez fait une longue route pour venir jusqu'au studio de Radio Présence. Alors j'aimerais d'abord tout simplement vous poser cette question. Comment a été découverte la présence du castor en Haute-Garonne? Mathieu Hort.
Sur la réserve naturelle, on est en partenariat avec plusieurs clubs de canoë et kayak sur le territoire. Et donc on a été prévenu par des kayakistes d'indices de présence. En fait, ce sont des troncs d'arbres qui avaient été rongés par le castor. Donc ils nous en ont informé et on allait vérifier sur place. Et effectivement, ce sont bien des traces de castors qui ont été identifiées.
Et alors, vous en avez vu à plusieurs endroits ou c'est vraiment ciblé sur une zone particulière?
Non, c'est un secteur bien localisé. On imagine qu'il y a peut-être un ou quelques individus sur un endroit bien, bien défini. Ouais.
Mais vous n'avez pas croisé les castors?
Alors après, on a mis des pièges photos. Donc c'est des genres de caméras qui sont postées à des endroits stratégiques où on sait que les animaux vont pouvoir passer. Ils sont déclenchés par le mouvement et donc on a confirmé la présence d'au moins un castor grâce à cette photo.
D'accord. Et c'est un castor adulte ou plutôt jeune?
Ah, bonne question. Sur la photo...
C'est un adulte. D'accord. Donc un adulte, c'est quel âge à peu près pour un castor? Combien d'années?
D'un an.
D'accord. Et ça fait quelle taille?
C'est une trentaine de kilos. C'est le plus gros rongeur qu'on a en France.
Oui. D'accord. Alors, cette découverte a été faite. Donc là, les preuves sont là. On en est sûr. De quelle espèce de castor s'agit-il?
Alors ça, on n'en sait pas.
Manu Jaco.
Pour ça, il faut faire des analyses génétiques. Il y a deux espèces possibles. Le castor européen, castor fiber, et le castor canadien, castor canadensis. Et pour ça, il faut faire des études génétiques et savoir pour vérifier quelle est l'espèce. Et pour ça, donc Mathieu, comme vous disiez, on a poser des dispositifs pour vérifier, confirmer sa présence. Et maintenant, on essaie de récupérer du matériel génétique pour confirmer l'espèce. Donc, il y avait deux éléments à vérifier. Enfin, il y en a plus que deux, mais il y a au moins ces deux éléments-là. La présence actuelle, parce que les indices de présence, ça veut dire qu'il y a un passage de castor, mais ça ne confirme pas son installation.
Une titularité.
Voilà, sa présence en temps réel. Enfin, voilà. Et puis, il faut maintenant vérifier son espèce. Donc, c'est en cours.
Donc, qu'est-ce que vous prélevez? Quelles sont les analyses génétiques qui vous permettent de dire si c'est un castor canadien ou un castor européen?
Alors, généralement, c'est du poil. Avec le bulbe du poil, on peut avoir du matériel génétique suffisamment précis pour pouvoir mener ces études. Sinon, ça peut être le castoreum. Donc, c'est une substance que le castor dépose sur le sol pour marquer son territoire. Et où il va y avoir, pareil, des cellules qui vont permettre de faire les analyses génétiques. Après, sur les analyses génétiques, on pourrait avoir un bout de peau, plein de choses, mais ça, c'est un prélèvement sur l'animal. Donc là, on parle vraiment de récolte indirecte.
Mmh. Et est-ce que le castor sent quand l'homme intervient sur son terrain? Est-ce que ça risque pas de faire fuir?
Ah ben c'est une très bonne question, mais alors le castor, comme toute espèce, ils ont une interaction avec leur environnement et ils savent très bien qui passe. Ils ont l'odorat qui est beaucoup plus développé que le nôtre et donc ils vont sentir le passage de tous les autres animaux, y compris de leurs groupes familiaux. Et c'est ce qui va permettre ce qui va influencer leur installation, de savoir si leur environnement permet de bonnes conditions ou pas. Enfin, ça est autre chose. Mmh. Mais oui, effectivement, vous faites bien de le souligner. S'il y a un passage régulier, ça représente une menace pour eux et ça peut être un facteur de déplacement des individus.
Mmh. Donc, espérons que vous pourrez faire effectivement les analyses avant qu'ils partent et puis surtout que ça ne va pas les effrayer et qu'ils pourront rester. Peut-être une différence entre ces deux types de castors, justement, celui d'Europe et puis celui du Canada?
Celui du Canada est beaucoup plus imposant et celui d'Europe a quelques kilos un peu plus petit. Bon, l'ordre de poids, c'est une dizaine de kilos. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que le castor canadien, comme son nom l'indique, est vraiment sur l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc les individus présents en Europe sont des individus échappés d'élevage ou enfin d'élevage de pardon, pas d'élevage, mais de...
De réserve.
De, oui, voilà, de parcs, qui ont été introduits pour des tests. Et en fait, l'idée, c'est de garder la présence du castor européen qui est vraiment sur son territoire et qui pourrait pâtir de la compétition entre les deux.
Et oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait pourquoi le castor a disparu et pourquoi il est réapparu, notamment dans les autres départements, Mathieu Hort ou... Manu Jacot, est-ce que vous avez des raisons pour expliquer? Allez, c'est encore à vous.
Oui, on le sait parfaitement, malheureusement. C'est comme la plupart des espèces, c'est la chasse. En fait, il était énormément attrapé pour la chair, pour la fourrure, parce que c'est une espèce semi-aquatique, donc il a une épaisseur de poils très, très, très dense. Et pour le castoreum, qui est une substance odorante qui servait en parfumerie, et par rapport à l'utilisation de l'animal en tant que ressource alimentaire, il faut savoir que jusqu'à je ne sais pas quelle époque, on utilisait le castor comme ressource alimentaire au moment du carême, parce qu'on l'associait plutôt à du poisson, parce que comme il a une queue écaillée, on se disait que ben voilà, il est plutôt associé au poisson, donc ce n'est pas vraiment de la viande, donc on pouvait le manger en temps de carême.
D'accord. Alors ça fait longtemps que les chrétiens n'ont pas mangé de castor pendant
le
carême.
Non, voilà, c'est ça. Mais bon, et ça a conduit à sa quasi-disparition jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est vraiment in extremis, que l'espèce a été sauvegardée dans la vallée du Rhône. Et que l'espèce a pu, avec sa protection qui date des années 60, protégé au niveau national en 1968. Et c'est vraiment à partir de là où il y a eu des programmes de réintroduction à différents... Et nous, en Occitanie, c'est de la réintroduction.
D'accord, donc dans les départements que je citais,
voilà,
c'est de la réintroduction.
Voilà, mais c'était très loin. C'était dans les Cévennes, c'est dans le parc naturel des Cévennes, sur la rivière Tarn, et c'était vraiment en amont. Et après, il a refait une colonisation naturelle.
D'accord. Dans la réserve Confluence Garonne-Ariège dont vous vous occupez, Mathieu Hort, quels pourraient être les avantages de la présence du castor?
La présence, c'est déjà le retour d'une espèce qui a disparu. Donc c'est déjà, on va dire, une partie du patrimoine de la réserve naturelle qui revient, qui recolonise le site. Après, c'est un animal, comme disait Manu, qui va avoir une influence sur son environnement. On dit que c'est une espèce ingénieure.
De quelle manière il a une influence?
C'est-à-dire que, par exemple, sur la Garonne et la Rège, il va pas faire des barrages comme on peut voir à la télé.
C'est
ou
quand
autre.
Même ce qu'on connaît du castor. Hein.
C'est ça. Il va utiliser un terrier donc dans les berges. Par contre, c'est un gros consommateur de végétaux. Donc, il va forcément avoir une influence sur la végétation autour de son terrier. Donc, il va collecter du bois, des arbustes et autres. Et donc, il va un peu modifier la végétation sur les berges.
Et ça, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est un constat. Mmh. Mais par exemple, il va manger beaucoup de peupliers, beaucoup de saules, de cornouillers. Et c'est des arbres qui ont la facilité, la faculté de recéper, donc ils vont refaire plein de branchages. Donc il ne va pas tuer l'arbre, mais au lieu d'avoir un fût tout droit, on va avoir un beau taillis de peupliers. On dit aussi que c'est pas mal par rapport au risque d'inondation, par exemple, parce que ça fait un genre de peigne, et donc ça ralentit les crues, ça capte les sédiments, ça capte aussi les embâcles. Donc il va influencer la vie de la rivière aussi indirectement.
D'accord. Et en fait, c'est toutes ces pousses qui reviennent, le long, ça tient aussi les berges, donc ça évite peut-être aussi l'effondrement, non?
Ah oui, tout à fait. Donc même s'il mange des végétaux, il n'enlève pas tout. Et ces végétaux-là, effectivement, maintiennent les berges grâce aux racines. Donc ça percole, ça évite que les crues emportent les berges, créent trop d'érosion. Donc oui, il a un vrai rôle indirectement sur son milieu. Oui.
Mmh, d'accord. Quels pourraient être les freins au retour du castor dans notre région si on se mettait à ne pas faire attention à eux? Qu'est-ce qui pourrait gêner?
Les incidences par rapport à l'homme, si on se base là-dessus, c'est surtout que, comme on disait, ils consomment des végétaux. Donc s'il y a des vergers, s'il y a des peupleraies artificielles de production, il pourrait avoir un impact. Après, sur la réserve naturelle, on est quand même sur un milieu préservé. On dit souvent qu'il a besoin de plusieurs mètres de répisible, donc de boisement en bord de cours d'eau pour son alimentation. Et c'est ce qu'on retrouve sur la réserve naturelle, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est là, c'est pas par hasard. Mais les incidences sur la réserve naturelle restent limitées.
D'accord. Avec, vous vouliez ajouter quelque chose? Avec quelle autre espèce le castor interagit-il? Parce que ça, c'est une espèce, vous l'avez dit, qui est herbivore, alors qu'il y a d'autres animaux, on va dire des animaux proches de l'eau, qui sont carnivores. Comment ça cohabite, ce petit monde?
Je crois que...
Alors, Manu Jacquot a la
réponse.
Je crois
que le castor peut se faire croquer par la loutre, non?
Les jeunes, oui, oui. Ouais. C'est plutôt les juvéniles. Hein. Les adultes n'ont pas beaucoup de risques. Hein. Ils ont quand même des incisives, imaginez, hein, c'est des ciseaux à bois assez efficaces. Donc, ils n'ont pas beaucoup de prédateurs en tant qu'adultes. Mais les jeunes, oui, par la loutre, par le renard, par tous les mustélidés, par le loup. Enfin, le loup a en capacité quand même d'attraper les adultes. Mais très, très peu de prédateurs, c'est plutôt les jeunes.
D'accord.
Après, en termes d'interaction, hein, pour qu'il y ait vraiment d'interaction, là, c'est, vous avez abordé la question des prédateurs, mais il y a aussi la question d'utiliser la même niche écologique, c'est-à-dire ceux qui sont dans le même habitat et qui ont la même alimentation. Et pour le coup, le castor n'a pas vraiment de concurrent, puisqu'il est un peu le seul vraiment lignivore à manger comme ça du bois. Donc, il va partager son habitat avec plein d'autres espèces. Et en termes de prédation, il n'a pas trop de risques. Et puis, de toute manière, ça fait partie aussi du cycle de la vie, parce que le fait d'avoir de la prédation, ça permet aussi la présence d'autres individus. Et c'est comme ça un cycle...
Oui, c'est ça. Donc, on comprend que la présence du castor, elle est bénéfique pour préserver la biodiversité. Hein. Vous avez parlé de tous ces avantages, Mathieu Hort. Est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage plus généralement pour l'ensemble de l'écosystème naturel?
Je pense que Mathieu a bien abordé la question au niveau de la transformation du paysage. Alors ça, c'est aussi... quand il est... Alors, sur la Garonne, ça va être quand même peu visible, parce que finalement... Alors, il y a le recépage qu'il a abordé. Après, j'imagine que vous avez en idée la question des barrages. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui va arriver sur des cours d'eau secondaires qui sont plus petits. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le castor a besoin d'avoir l'entrée de son gîte immergé. Et donc, pour ça...
D'où le terrier dont vous parliez.
Mmh. Mmh. Voilà. Donc, pour ça, il faut une hauteur d'eau suffisante. Sur la Garonne, il n'y a pas de souci. Il va avoir... Enfin, pas de souci. Il y a quand même les périodes d'étiage, mais il va avoir une possibilité d'utiliser les terriers de manière assez profonde et puis assez bas. Donc, la possibilité existe. Sur des cours d'eau secondaire, ça peut être un peu plus compliqué parce que la lame d'eau va être plus faible.
Et notamment en été aussi.
Et notamment en été. Mmh. Et c'est dans ces cas-là où il va avoir la possibilité d'installer des barrages et donc augmenter la lame d'eau et donc avoir cette hauteur d'eau qui déborde sur les berges et avoir comme ça une influence sur la végétation riveraine qui peut se transformer en étant d'un habitat plutôt sec de passer en zone
humide alors. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est aussi un avantage du retour du castor, c'est que avec les étés secs que nous avons, ça peut permettre à des zones de redevenir un petit peu humides, non, Mathieu Hort?
Oui, alors c'est vraiment sur les petits cours d'eau hein, qui peut faire
pour
ça.
Les petits cours d'eau.
Et effectivement, il peut faire des mini retenues d'eau et permettre aussi l'infiltration des eaux dans les nappes des cours d'eau. Et donc oui, jouer un rôle de stockage d'eau en hiver et de relargage en étiage, oui.
Donc c'est une bonne nouvelle finalement, ce retour du castor.
Oh, c'est jamais une mauvaise nouvelle, la présence d'une espèce. Mais c'est vrai que, comme disait Mathieu, le relargage, c'est vraiment le travail des zones humides. Alors, le castor, il nous fait un petit peu, c'est l'eau de l'iceberg, en fait, il nous fait une espèce de mise en lumière. Mais on a, sans que le castor soit présent, on avait, j'ai envie de parler au passé, mais on avait des zones humides, des tourbières qui font déjà ce travail-là. Et c'est vrai que l'action humaine d'avoir asséché toutes ces zones, ben, maintenant on dit c'est chouette que le castor soit là, mais on peut aussi de nous-mêmes avoir une action un peu plus bénéfique sur notre environnement.
Voilà, et ce sera le mot de la fin, une petite leçon pour ce lundi matin. Merci beaucoup Emmanuel Jacquot, chargé d'études sur les mammifères de l'association Nature en Occitanie. Et merci Mathieu Hort, conservateur de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Bonne journée.
Merci, au revoir, bonne journée.